Warner d'avoir été avec nous, Jean-Philippe Navarre, Jean Frédérics, Gérard Tourtrol, Philippe Langlois, Yvan Amar, à demain. Vous écoutez France Culture, il est 17h.
De la terre au ciel, sur France Culture, voyagez à travers de nouveaux paysages.
À voix nue, Laurentès s'entretient avec Jean-François Revel.
Jean-François Revel, dans ce second entretien, je vous propose que nous abordions un domaine qui vous est cher depuis longtemps et qui est celui de la politique, entendue dans le sens de l'esprit de la cité. Dans votre génération, vous êtes né en 1924,
oui.
Dans votre génération et parmi vos camarades et amis, rares sont ceux qui ont échappé, je ne veux pas désigner ça comme une maladie, mais qui ont échappé à ce que le regretté François Furet appelait cette grande illusion, cette illusion du communisme. Comment expliquez-vous cette exception ? Par le fruit des circonstances, un éloignement de la France à ce moment-là, je veux parler des années 1945-1955, ou parce que déjà vous pratiquiez ce qui sera votre exercice de toute votre vie intellectuelle, c'est-à-dire la liberté de l'esprit ?
Alors, je dois dire tout d'abord qu'au cours de ces années, jusqu'à la fin des années 50, je me suis senti assez convaincu par le marxisme en tant que théorie générale d'interprétation du processus historique et des forces en présence les unes par rapport aux autres dans les sociétés contemporaines. Je n'ai jamais adhéré au parti, contrairement à un certain nombre de mes camarades et de mes amis personnels.
Il y a une anecdote qui court comme quoi vous y auriez adhéré 3 jours.
Alors, non, j'ai fait partie pendant 24 heures.
Ah.
Parce que un de mes camarades faisait partie d'une cellule qui était proche de l'école normale, c'était rue Rateau, et dans laquelle il y avait Joliot-Curie, un certain nombre de...
Langevin, je crois aussi.
Langevin, de communistes illustres. Et il m'avait dit, demain, il y a une réunion de cellules, ils seront tous là, tu devrais venir. J'ai dit, mais j'ai pas de carte, comme tu le sais. Mais enfin, t'as qu'à en prendre une, et puis après, tu en feras ce que tu voudras. Donc, j'ai pris une carte, et puis j'ai assisté à la réunion de cellules. Et puis, c'est la première, la dernière fois, d'ailleurs, c'était pas très intéressant. Et c'était d'ailleurs, je me rappelle très bien, qu'il parlait d'un éternel problème, c'est comment faire mieux marcher la presse communiste. Pourtant, à l'époque...
C'est un problème qu'on appelle récurrent.
Qu'on appelle maintenant récurrent, et qui, il y a longtemps que la presse communiste, en cet an 2002 où nous parlons, ne vit que de subventions indirectes. Et, si vous voulez, il y avait un côté d'embrigadement que je sentais dans le Parti communiste, je voyais bien... ce que mes camarades et les bêtises que mes camarades étaient contraints d'écrire dans les revues communistes, la Nouvelle Critique ou autre, et donc je me disais que je n'avais pas lutté à mon tout modeste niveau contre le totalitarisme nazi pour ensuite me précipiter dans la gueule d'un autre totalitarisme. Et puis je vous dirais franchement que le Parti communiste me paraissait pas seulement totalitaire et dictatorial, mais également un peu ridicule, que l'espèce de côté paroissial où tout le monde récitait les mêmes couplets, surtout cette façon de stériliser la pensée des gens les plus intelligents qui devenaient des robots, des perroquets, tout ça me frappait beaucoup chez mes amis, et par conséquent j'ai une sorte de répulsion naturelle que je n'ai jamais voulu adhérer. Et puis alors, par la suite, je dirais que contrairement à eux et à la plupart, et contrairement à encore un très grand nombre de socialistes non communistes actuels, moi j'applique vraiment le marxisme, parce que le marxisme vous dit quoi ? Il vous dit que la seule véritable preuve scientifique d'une théorie, c'est ce que Marx appelle la praxis, disons en termes moins abscons, l'expérience, la méthode expérimentale qui prévaut dans les sciences de la nature. Et lorsqu'un système politique ou économique échoue partout où il a été appliqué, c'est évidemment qu'il est mauvais. C'est Marx lui-même qui nous prescrit d'en tirer cette conclusion. Bien, c'est ce que j'ai fait. Il était évident pour quiconque voulait un peu se renseigner vers 1950-60, même avant d'ailleurs, entre les deux guerres, enfin pour ma génération c'était ça, que le communisme ne marchait dans aucun des pays où il était appliqué.
Alors, comment expliquez-vous, avant d'en revenir au sujet lui-même, comment expliquez-vous que des camarades, des amis que vous estimiez, dont nous connaissons encore certains, dont vous dites ils étaient obligés d'écrire dans la Nouvelle Critique, qu'est-ce qui crée cette obligation? Est-ce que cela vérifie ce que vous avez écrit une fois dans un de vos livres, et qui fait le titre d'un de ses livres, c'est que la tentation totalitaire est une constante de l'esprit humain. On ne voit pas pourquoi vous, Jean-François Revel, vous iriez échapper à cette tentation, à cette constante même, et comment se fait-il que cette génération-là y ait été prise? Est-ce que le moment historique est plus favorable?
Je crois en effet qu'il y a un certain nombre d'esprits, je citais Montaigne tout à l'heure, qui sont tout à fait réfractaires à la tentation totalitaire, qui répugnent à tout embrigadement systématique dans un système intellectuel ou dans une organisation partisane ou religieuse d'ailleurs éventuellement, et donc il y a quand même certainement, heureusement, une diversité dans les esprits, entre les esprits humains. Il y en a qui ont une sorte d'appétit, de besoin pour quelque chose de totalement organisé, accompagné et soutenu par une formation humaine, un club ou une association ou un parti ou un couvent, tout ce que vous voulez, qui pour ainsi dire incarne cette interprétation fermée, et d'autres qui sont tout à fait allergiques à cette orientation de l'esprit et de la vie.
Bon. Vous pensez que l'engagement communiste était d'abord une question de tempérament?
Oui, beaucoup. Je crois que probablement beaucoup de ceux qui ont été membres du Parti communiste, je veux dire, il y en a beaucoup qui ont été communistes 3 ans quand ils étaient étudiants, parce que c'était la mode à ce moment-là. Le parti était très puissant, etc. Il avait une extraordinaire influence politique et culturelle. Bon, mais ceux qui sont restés longtemps, qui ont accédé à des responsabilités, qui ont accepté de mentir, de déformer la réalité pour persister dans leurs erreurs, je pense que ceux-là, en effet, se satisfaisaient un certain besoin de penser. Et ce qui n'a rien à voir, d'ailleurs, avec le niveau intellectuel de l'individu en question. Il y avait des gens supérieurement intelligents qui, au contraire, déploient un luxe d'arguments extraordinaires pour justifier leur position. Alors que souvent, un simple prolétaire qui n'a pas fait d'études, quand il constate que ça ne marche pas, ben, il en tire les conclusions beaucoup plus rapidement, parce qu'il s'est moins engagé intellectuellement. Alors, moi, j'ai souvent parlé depuis cette époque-là avec certains de mes amis qui avaient été communistes et puis qui avaient cessé de l'être, à commencer par François Furet, que vous mentionniez, mais d'autres, comme le philosophe René Scherrer, des camarades de promotion à moi, Jean Depin, qui est philosophe également, Maurice Mouillot, et au fond, tous, ou le roi Ladurie, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu un moment donné, j'ai été comme envoûté, ça a été plus fort que moi, je me suis laissé entraîner dans un engrenage où tout semblait rouler dans le même sens, et je n'ai pas su faire d'aspect critique. Alors là, la désintoxication arrive d'un seul coup. Un beau jour, ils en ont assez, alors, brusquement ils aperçoivent la réalité, et ils deviennent... comme Annick Riegel, par exemple, beaucoup plus anticommunistes encore que ceux qui n'ont jamais été. Bon.
Alors, au fond, vos positions, vos choix politiques découlent de l'exercice de la pensée tel que vous le concevez et tel que vous l'avez pratiqué au sein même de la philosophie. C'est-à-dire que la vérification par les faits doit s'imposer face aux idées et aux idéologies. Mais oui. Est-ce qu'un fait existe? Par exemple, est-ce qu'un taux de croissance, c'est-à-dire un produit statistique, est un fait? Est-ce qu'il y a des faits irréfutables?
Il y a certains, oui, qui sont irréfutables. Je veux dire que, quelle est l'hypothèse de départ du marxisme? Ça consiste à dire, tout ce qu'il y a comme misère dans le monde provient du capitalisme, c'est-à-dire de la propriété privée des moyens de production et d'échange. Pourquoi? Parce que le profit capitaliste ne peut venir que de la part du salaire que l'on vole aux travailleurs. Bon. Alors, ça paraît très logique comme ça dans l'abstrait, malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Parce que la prédiction de Marx selon laquelle il y aurait un nombre de plus en plus réduit de gens de plus en plus riches et un nombre croissant de gens de plus en plus pauvres ne s'est pas réalisé. Quand on prend l'histoire de l'Europe et de l'Amérique du Nord depuis, en gros, le XVe siècle, on est bien obligé de constater que les pays qui se sont enrichis sont les pays où on a, en gros, appliqué l'économie de marché, le capitalisme, et où la propriété où les moyens de production sont restés plutôt privés que étatiques. Et qu'en revanche, tous les pays où on a appliqué une politique économique collectiviste, y compris les anciennes colonies des pays du tiers-monde, notamment l'Afrique, qui avait collectivisé toute son agriculture, s'en sont trouvés fort mal. Bon, ne parlons pas de la Chine ou de... c'est un fait global, si vous voulez, en macro-histoire, en voyant les choses sur la longue période. En gros, c'est le système capitaliste libéral qui a réussi, ce qui ne signifie pas qu'il soit parfait. Mais pour réussir et pour avoir des défauts, il faut exister. Or, il se trouve que le socialisme n'a jamais réellement existé et que partout où il a été appliqué, il n'a amené que des désastres.
C'est donc l'examen informé et rigoureux des faits qui est votre méthode. Oui. Et c'est elle qui vous a conduit à ce que vous avez appelé vous-même, mais pas seulement vous, le néolibéralisme, qui est devenu aujourd'hui une expression presque injurieuse. Comment expliquer que le libéralisme, c'est-à-dire qui fait acception de liberté, apparaisse aujourd'hui comme quelque chose, au fond, d'inquiétant, de dangereux et même de moralement condamnable? Est-ce que c'est cette tentation totalitaire, justement, qui fait que nos sociétés s'accommodent mal de la liberté?
Alors, ce phénomène d'hostilité au libéralisme, baptisé tantôt néo, tantôt ultra-libéralisme, est un phénomène européen et plus particulièrement français, encore de plus en plus français, de moins en moins européen, car même les socialistes, enfin, les travaillistes britanniques ne parlent plus ce langage-là, les socialistes allemands ne l'ont jamais parlé, Helmut Schmidt, qui était chancelier à la fin des années 70, disait qu'il faut qu'il y ait des profits, parce que ce sont les emplois de demain, etc. Le parti, l'ex-parti communiste italien également a répudié complètement le marxisme et est en faveur de le parti canadien qui s'appelle le Parti démocratique de la gauche, qui sont pour l'économie de marché. Et les socialistes espagnols, eux-mêmes, ont toujours été contre les nationalisations. Et jamais Felipe González n'a voulu nationaliser les grandes entreprises espagnoles. Donc, c'est plutôt français. Alors, je pense que cette propagande intense contre le libéralisme qui retentit tous les jours à nos oreilles en France est la réaction, si vous voulez, des demi-soldes du communisme et du socialisme et qui, n'acceptant pas leur échec, tous ces anciens maoïstes, gauchistes, trotskistes, etc., n'acceptant pas leur échec et n'acceptant pas les leçons de l'histoire, non plus comme ressource que d'attaquer le système libéral sans avoir plus rien à proposer à la place, parce qu'avant ils prétendaient avoir quelque chose à proposer, mais là maintenant, si vous demandez à la plupart des ce qu'on appelle les antimondialistes, par exemple, bon, qu'est-ce que vous proposez à la place de la libéralisation de l'économie mondiale, ils ne savent pas. Si vous leur dites, alors vous voulez qu'on revienne aux barrières douanières d'entre les deux guerres, vous trouvez que ça donne de bons résultats avec les millions de chômeurs qu'il y avait dans toute l'Europe? Ah non, c'est pas ça qu'on veut, etc. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? On peut jamais leur tirer une éclair. Alors je pense qu'il s'agit là d'une réaction purement passionnelle, je dirais presque névrotique.
Il fut un temps où vous avez pensé, et même essayé personnellement, de faire avancer les idées auxquelles vous tenez à l'intérieur de la gauche elle-même. Vous avez été proche du Parti Socialiste tel qu'il s'est recomposé dans les années 60. Vous avez même été candidat aux élections législatives. Est-ce que vous avez pensé donc que cette gauche française, non communiste, pouvait se réformer, faire son Bad Godesberg, de façon à épouser la modernisation de son siècle?
Alors, quand, poussé par Mitterrand en 1967, en effet, j'ai été candidat à la députation, à Neuilly plutôt, ce n'était pas pour le Parti Socialiste, n'est-ce pas? C'était ce qu'on appelait la Convention des institutions républicaines, qui était la petite formation que Mitterrand avait créée, et qui s'était inséré au sein d'une formation plus vaste qu'on appelait la FGDS, formation de la gauche démocrate et socialiste, mais socialiste au sens social-démocrate. Bon, et à ce moment-là, justement, mon grand espoir était que la France puisse mettre sur pied un grand parti social-libéral, comme on dit maintenant, un petit peu du type du nouveau travaillisme de Tony Blair en Grande-Bretagne aujourd'hui, et qui ne serait pas allié au Parti communiste. Et je me suis séparé de cette formation et de François Mitterrand personnellement en 1971-72, quand il a fait le programme commun de gouvernement avec les communistes, parce que j'estimais que on fonctionne un calcul essentiellement électoral, il faisait des concessions très graves sur le plan des programmes et de l'interprétation de l'économie, à laquelle il faut dire qu'il ne comprenait pas grand-chose.
Et est-ce que vous pensez que ce qui n'a pas été possible dans les années 70, ni même dans les années 80 ou 90, va le devenir, peut-être en 2002 ou peut-être un peu plus tard, à la faveur des secousses électorales que l'année 2002 nous a prodiguées?
Alors, nous avons assisté depuis 3 ou 4 ans, à ce qu'on pourrait appeler la fin de l'Europe rose. Rappelez-vous qu'en 1998, on parlait d'Europe rose parce que les sociodémocrates ou les socialistes étaient au pouvoir un peu partout en Europe. Sur les 15 pays de l'Union européenne, il y en avait 11 qui avaient des gouvernements sociodémocrates. Et les socialistes français étant évidemment les plus orthodoxes, n'est-ce pas, les plus marxistes, mais les autres, ils avaient cessé de l'être. Et puis, tous ces partis se sont mis à perdre les élections les uns après les autres. Quand vous pensez que le Parti Socialiste danois, qui est au pouvoir depuis le début du XXe siècle pratiquement, a perdu les élections en faisant le pire score qu'il ait jamais eu depuis 1920. Et ce sont les libéraux. Alors, il y a aussi une ombre au tableau qui sont les populismes d'extrême droite, mais les populismes d'extrême droite sont une forme de réaction contre le clientélisme socialiste, il faut bien l'appeler comme cela. Pourquoi est-ce que Haider a fini par avoir 27% de voix en Autriche? Parce que pendant des années et des années, l'Autriche avait été gouvernée par un attelage d'un parti centriste chrétien et d'un parti socialiste qui monopolisait absolument toutes les places, tous les syndicats, tous les postes. Et si vous n'étiez pas inscrit à l'un ou l'autre des deux syndicats que contrôlaient ces partis, vous ne pouviez pas avoir de travail. Donc ça a été vraiment une réaction qui, évidemment, manque de sagesse, mais qui s'explique de la même manière quand on entend les bonnes consciences hurler contre le fait que Silvio Berlusconi soit beaucoup trop puissant parce qu'il possède plusieurs chaînes de télévision privées. On oublie complètement que les partis politiques italiens avaient mis totalement la main sur les chaînes publiques. La première chaîne, c'était la Démocratie chrétienne, la deuxième, c'était le Parti socialiste, et la troisième, c'était le Parti communiste. Bon, et ils s'en servaient sans aucun scrupule pour leur propagande à eux. Donc, ce n'est pas de la... Vous comprenez, il faut bien voir ça. Si vous ne voyez pas le mal contre lequel a réagi une certaine évolution politique, vous ne voyez pas. Aujourd'hui, on voit bien à travers toute l'Europe que finalement l'idée libérale s'impose. Et que, d'ailleurs, les extrêmes droites, et en France notamment Jean-Marie Le Pen, sont anti-libéraux autant que les trotskistes. Le Pen et Arlette Laguiller tiennent sur l'Europe libérale ou la mondialisation des propos qui sont absolument interchangeables.
Mais quand on vous lit, quand on vous entend, vous jugez qu'il n'y a pas qu'eux, bien que sous une autre forme. Vous pensez que la droite française elle-même est, possède aussi une capacité de résistance contre le libéralisme qui fait que ce n'est pas de ce côté-là non plus qu'on peut espérer un libéralisme bien entendu. Et est-ce que ce n'est pas d'ailleurs le fondement de votre opposition à De Gaulle dès l'origine aussi, l'idée que cette toute-puissance de l'État qui intègre en effet un interventionnisme nuisible au développement de la liberté sous toutes ses formes, qui continue d'animer la droite française?
Ah oui, nous avons une droite dirigiste. De Gaulle détestait l'entreprise privée au moins autant que la détestaient les socialistes, c'est même peut-être davantage. Sa fameuse remarque sur la politique de la France ne se fait pas à la corbeille Bon, qu'est-ce que c'est que la corbeille? C'est la bourse. La bourse n'est rien d'autre que le thermomètre qui permet de mesurer la valeur des diverses entreprises d'un pays. Bon. Et il est certain qu'il y a cette idée que l'État, l'idée gaullienne, qui est une idée monarchique, que l'État français est là pour contrôler aussi l'économie. Moyennant quoi, De Gaulle a fait perdre à la France des milliards et des milliards dans des entreprises comme Bull ou le plan calcul, enfin, qui étaient des catastrophes économiques. Depuis lors, la droite s'est quand même un peu libéralisée, mais je pense que plus que détestation, c'est d'intimidation, de timidité qu'il s'agit. Et ils ont tellement l'impression que l'ensemble de la société française est hostile à la libre entreprise, qu'ils n'osent pas aller trop loin dans cette direction. Et d'ailleurs, un peu comme les socialistes, parce que les socialistes sont bien obligés d'aller dans cette direction. Tout le monde sait que pendant les 5 ans de son ministère, Lionel Jospin a privatisé beaucoup plus d'entreprises en France que ses prédécesseurs dits de droite. Et pourquoi? Parce que le mouvement du monde entier, de l'Europe en particulier, le poussait dans cette direction. Il ne pouvait pas éviter de le faire. Et il est certain que les freins qui actuellement paralysent certains aspects de l'économie française, par exemple le refus de l'Électricité de France d'accepter les dispositions européennes sur la privatisation de certaines entreprises de services publics, ou le fait que en juin dernier les aiguillères du ciel se soient mis en grève parce que on voulait harmoniser le contrôle aérien sur toute l'Europe, ce qui est une question de pur et simple bon sens, mais en réalité, de quoi s'agissait-il? Comme ils sont fonctionnaires, ils avaient peur de perdre leurs avantages, c'est tout.
Alors, entre idéologie à gauche et intimidation à droite, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « La connaissance inutile ». Mmh. Est-ce que vous êtes le Sisyphe du libéralisme? Sisyphe heureux, j'espère, mais Sisyphe tout de même.
Non, je suis pas très heureux, parce que... C'est un petit peu une expérience amère que j'ai appris à vivre, que on peut écrire un livre qui a une certaine influence, qui a même un grand retentissement, qui trouve une diffusion importante, qui est traduit dans plusieurs langues, et puis après, vous apercevez qu'au fond, il y a très peu de gens qui en tiennent compte, que les arguments que beaucoup de gens ont acclamés au moment où le livre est sorti, ou continue à approuver par la suite, parce que il m'arrive, je continue parfois à recevoir des lettres concernant des livres que j'ai publiés il y a 10 ou 15 ou 20 ans, finalement, exerce assez peu d'influence sur le concret de la pratique politique ou de la conscience collective. Ce qui rend modeste, quand on dit que nous vivons dans un pays où les intellectuels ont beaucoup d'influence, c'est un petit peu une illusion.
Mais enfin, vous continuez ce travail puisque paraît ces jours-ci un nouvel ouvrage dont nous reparlerons demain, qui est l'obsession anti-américaine, qui paraît chez Plon, et où vous développez les thèmes qui vous sont chers.
C'était À Voix Nue. Laurent Tess s'entretenait avec Jean-François Revel.